Le journal avec Anaïs Feuga. Bonsoir Anaïs.
Bonsoir à tous. Le bourbier afghan lui collera sans doute longtemps aux semelles. Le président américain mutique depuis presque une semaine prend la parole ce soir sur la situation à Kaboul, où depuis ce matin les situations de chaos à l'aéroport font le tour du monde. Les États-Unis demandent aux talibans de ne pas intervenir pour entraver les opérations d'évacuation. La communauté internationale a mal évalué la situation, tonne Berlin. Tout à l'heure à 20h, Emmanuel Macron s'exprimera à la télévision. La débâcle américaine, l'évacuation du pays dans l'urgence, autant d'images qui ne passent pas pour les parents des 89 soldats français morts en Afghanistan. Vous entendrez l'un d'entre eux. Et bonsoir Eric Delvaux.
Bonsoir Anaïs.
Ce sera aussi le téléphone sonne tout à l'heure.
Oui, avec une question, on essaiera de savoir ce que les talibans de 2021 ont de commun et aussi de différent avec ceux de 1996. Et quid d'une éventuelle nouvelle vague de réfugiés dans le monde, en Europe et notamment en France. Vos questions sur l'Afghanistan, c'est dès maintenant. 01 45 24 7000.
À tout à l'heure Eric, après le journal. Le coronavirus ne desserre pas son étreinte, plus de 1900 patients en réanimation. Dans certains centres commerciaux, le pass sanitaire est obligatoire. Depuis ce matin, nous serons à Marseille. Nous irons aussi à Belle-Île-en-Mer. Toute une colonie de vacances doit être évacuée après la découverte de 77 cas positifs chez des adolescents. Dans quelles circonstances des policiers ont-ils ouvert le feu sur un automobiliste et sa passagère la nuit dernière en Seine-Saint-Denis? Une vidéo de ce contrôle routier circule, l'IGPN enquête. Et puis, dernier petit doué de la famille Ali, Nicolas Ali Walsh, petit-fils de Mohamed Ali, vient de gagner son premier combat de boxe professionnel.
France Inter.
20 ans de présence militaire sur le sol afghan. Une facture de près de 2000 milliards de dollars, 2500 djihadistes tués. Et à la fin, cette image désastreuse pour les États-Unis, l'évacuation des ressortissants étrangers dans le chaos de l'aéroport de Kaboul, que les soldats n'arrivent même plus à sécuriser. L'aéroport, seule porte de sortie de l'Afghanistan pour ceux qui fuient, et ces scènes de panique, des centaines de civils courant désespérément sur le tarmac après les avions allant se placer en situation de décollage. Les soldats américains ont tué deux hommes armés cet après-midi qui se trouvaient au milieu de ces civils. Loïc Loury, bonsoir.
Et bonsoir Anaïs.
Vous êtes notre correspondant à New York. Les images de débâcle tournent en boucle sur les télés outre-Atlantique et le président Joe Biden rentre précipitamment de Camp David. Il doit sortir de son mutisme dans moins de 3 heures maintenant.
Oui, une prise de parole bien sûr très attendue depuis la Maison-Blanche au lendemain de la prise de Kaboul par les talibans. La dernière fois qu'il s'est exprimé, eh bien, c'était le 10 août et Joe Biden avait alors assuré ne pas regretter le désengagement militaire américain d'Afghanistan. Vous savez, c'est la ligne de défense de son administration. Pas de regrets, une guerre trop longue, une mission remplie depuis longtemps et une responsabilité rejetée sur les défaillances de l'armée afghane. Mais cette ligne semble intenable désormais face aux images de chaos que vous évoquiez à l'aéroport de Kaboul, cette humiliation des Américains poussés dehors après 20 ans de guerre. Résultat, depuis 24-48 heures, la pression s'est largement accrue sur Joe Biden, très critiqué, y compris par les médias libéraux qui le soutiennent habituellement, le New York Times, mais aussi la chaîne CNN qui parle aujourd'hui d'un véritable désastre. Alors certes, le président, avant ces événements, bénéficiait du soutien de l'opinion publique, favorable au retrait d'Afghanistan, ce n'est sans doute pas complètement perdu, mais il est incontestablement affaibli, ce président Anaïs, par cette crise la plus grave du début de son mandat.
Loïc Loury, merci. En direct depuis New York, Joe Biden s'exprime à 21h45, heure de Paris. Le Conseil de sécurité des Nations Unies est réuni depuis 16h. Les ministres européens se retrouvent demain pour parler de la crise. La plus grosse débâcle de l'OTAN depuis sa création. Analyse très sévère en Allemagne d'Armin Laschet, le président de la CDU. La communauté internationale n'a pas réussi à faire face à l'avancée fulgurante des talibans, dit l'Allemagne. L'OTAN est en réunion d'urgence dès demain. La France, elle, doit commencer à évacuer ce soir ses ressortissants encore présents en Afghanistan. Plusieurs dizaines de diplomates, humanitaires ou journalistes vont être, dans un premier temps, accueillis sur une base aérienne française à Abu Dhabi. Les civils afghans qui ont travaillé avec la France devraient également être évacués, c'est ce qu'a promis la ministre des Armées. L'ONG Médecins sans frontières, pour l'instant, reste sur place. Clémence Pénard a réussi à joindre à Kaboul Philippe Ribeiro, son représentant.
La situation à Kaboul aujourd'hui est plus calme qu'elle n'était hier. Évidemment, hier, c'était la panique généralisée. Ça fait un peu ville morte, à l'exception de l'aéroport où des milliers de personnes cherchent à fuir le pays. Notre propre avion est parti hier soir, et donc on n'a plus personne, nous, à l'aéroport. Toutes nos opérations, tous nos hôpitaux fonctionnent normalement aujourd'hui, et on considère que les conditions sont réunies pour assurer la continuité de notre présence. À ce stade, nous n'avons pas décidé d'évacuer le pays.
Le représentant de MSF à Kaboul, la situation sur place reste toutefois confuse. Ce soir, les vols civils et militaires sont suspendus à l'aéroport. Le chef des forces américaines en Afghanistan a demandé aux talibans de ne pas entraver les opérations d'évacuation. Dans moins d'une heure maintenant, le président français prendra la parole à la télévision depuis le fort de Brégançon dans le Var, où il est en vacances. Emmanuel Macron a présidé un conseil de défense à la mi-journée et il vient de s'entretenir avec Angela Merkel et Boris Johnson. Aurélien Pradier, le secrétaire général des Républicains et président du groupe d'amitié France-Afghanistan, espère que le chef de l'État montrera une opposition ferme aux talibans.
Première des déclarations, c'est de dire que nous ne reconnaissons pas et que nous ne reconnaîtrons pas l'État taliban. Et en aucun cas, il ne faut imaginer que parce que leur discours est un peu plus poli sur la scène internationale, ils auraient changé. Non, ce sont toujours des ennemis de la liberté. La deuxième chose, c'est de gérer l'urgence de l'accueil. Ce n'est pas le moment de compter celles et ceux que l'on accueille, c'est le moment d'accueillir toutes celles et ceux qui, parce qu'ils ont défendu la liberté en Afghanistan, sont en danger. Ce n'est pas l'immigration incontrôlée, c'est le droit d'asile. Et puis la deuxième question qui se posera, c'est de savoir comment désormais on intervient, on soutient le peuple afghan qui n'a pas totalement déposé les armes devant les talibans. Et c'est toute la question qui va se poser dans les semaines qui viennent. Qu'est-ce que la France et la communauté internationale fait pour ne pas considérer que la prise de Kaboul et de l'Afghanistan est irrémédiable.
Aurélien Pradier avec Maxence Lambrecq. Lui regardera aussi ce qu'il se passe en Afghanistan, mais avec amertume et colère. Guy Piquant est le père d'un soldat français de 34 ans, tué par les talibans il y a plus de 13 ans, mort dans l'explosion d'une voiture piégée à la sortie de Kaboul. Laurent n'avait pas dit à ses parents qu'il partait en Afghanistan. Aujourd'hui, son père confie à Katia Lautrou de France Bleu Cotentin à quel point il est difficile pour lui de voir les Occidentaux quitter le pays de cette manière.
C'est vrai que c'est quelque chose qui remet fondamentalement en cause le sens de la mort de notre fils. Lorsque déjà on perd un fils dans ces conditions-là, on se pose des questions, on s'interroge, on cherche le sens de ce drame. Dans le cas présent, on pouvait comprendre un certain nombre de choses. Bon, c'était une vie donnée pour un peuple, pour une cause et pour quelque chose qui était noble. Aujourd'hui, le retour à la situation antérieure est quelque part une douleur qui renvoie à un non-sens. C'est une mort pour rien. Et les jeunes qui sont tombés là-bas, ils sont allés avec la certitude de rendre un service et d'apporter quelque chose de bien. Et là, bon, bien, c'est quelque part une sorte de pied de nez, pour ne pas dire autre chose, à leur mémoire et à leur engagement. Pour nous, parents de Laurent qui est tombé là-bas, on est touchés deux fois par ce drame afghan, la perte de notre fils et puis aujourd'hui la perte du sens de sa disparition.
La France a été présente 13 ans militairement en Afghanistan jusqu'en 2014. 89 soldats français y ont trouvé la mort. Avec l'avancée des talibans, les militaires afghans s'enfuient eux aussi. Plusieurs avions de l'armée régulière ont atterri au Tadjikistan. Plus d'une centaine de soldats ont ainsi débarqué dans l'ex-république soviétique d'Asie centrale. L'Ouzbékistan, de son côté, aurait abattu un avion militaire afghan et forcé à atterrir 46 avions et hélicoptères afghans ayant passé la frontière avec près de 600 soldats à bord. Les images du chaos à l'aéroport de Kaboul, c'est sur franceinter.fr, ainsi qu'un rappel des 10 dates clés de la montée en puissance des talibans. On poursuit juste après ce journal avec le téléphone sonne à 19h20. Encore à l'étranger, 3 villages à 50 km au sud-est d'Athènes évacués aujourd'hui. Un nouvel incendie s'est déclenché près du port de Lavrio qui dessert les îles Cyclades. Le nord du Maroc est à son tour touché par les feux de forêt depuis 3 jours. Les vents changeants n'aident pas à maîtriser l'incendie. Plus de 700 hectares de forêt déjà engloutis près de la ville touristique de Chefchaouen. France Inter, il est 19h09. Deux policiers en garde à vue ce soir dans les locaux de l'IGPN, entendus pour avoir tiré à plusieurs reprises sur un véhicule qui aurait refusé de se soumettre à un contrôle routier la nuit dernière à Stein, en Seine-Saint-Denis, selon la préfecture de police. Le conducteur et sa passagère sont grièvement blessés. Bonsoir Ariane Grissel.
Bonsoir.
Sait-on dans quelles circonstances ces coups de feu ont-ils été tirés? La vidéo de la scène circule en ligne.
Oui, une scène filmée par un automobiliste. On y voit un homme dans la rue tirer sur une voiture. contourner le véhicule qui s'est immobilisé et faire à nouveau feu côté conducteur, tandis qu'un autre brandit une arme à ses côtés. Sur ces images, à première vue, rien ne permet de distinguer qu'il s'agit de deux policiers, pas d'uniforme, pas de brassard, pas de gyrophare. Seul l'étui de pistolet à la ceinture fait office d'indice. Renseignement pris, il s'agit bien de policiers de la BAC de Stain, la brigade anticriminalité. Alors la question qui se pose toujours dans ces images virales, c'est évidemment de savoir ce qui s'est passé avant. Selon la version de la préfecture de police, effectivement, il s'agit d'un refus d'obtempérer. L'automobiliste recule, heurte l'un des trois policiers de l'équipage, repart et traîne un fonctionnaire sur plusieurs mètres. Deux policiers sont donc légèrement blessés. Deux enquêtes sont ouvertes. L'une vise le conducteur pour tentative d'homicide volontaire. L'autre, elle, concerne les policiers pour l'usage de leur arme à feu. Au moins 8 coups de feu donc ont été tirés.
Merci Ariane Grissel, spécialiste police de France Inter. En Bretagne, la colonie de vacances tourne court. À Belle-Île-en-Mer, un foyer épidémique au coronavirus a été découvert dans le centre de vacances de Bruté. Sur 173 adolescents, 77 ont été testés positifs. Ils sont pour l'instant confinés avant leur rapatriement demain sur le continent, dans des conditions très strictes, sans contact avec l'extérieur. Ils préparent donc leurs bagages pour cette dernière journée de vacances, explique le responsable de la colonie, Serge Pommier.
C'est très simple, l'ambiance au sein du centre, elle est exactement comme en temps normal. Il fait très beau, tout va bien, les enfants vont très bien, il n'y en a aucun qui a le moindre symptôme. Donc pour eux, c'est un non-événement à ceci près qu'au lieu d'être deux lieux de vacances, on en a trois, le lieu de vacances des enfants de 6-12 ans, le lieu de vacances des adolescents et le lieu de vacances des enfants qui sont covidés. Comme il y a des animateurs qui ont aussi le Covid, totalement asymptomatiques. Et ce qui fait que la vie du centre de vacances poursuit sa route exactement comme auparavant. Notamment la soirée d'hier soir, il y avait en fait trois soirées. C'était une boum, la fameuse boum de fin de centre de vacances. Et je vous assure qu'ils avaient le moral. Hein. Ils vont très très bien, tout le monde va très bien. Et pour le centre en lui-même, à l'intérieur, il ne se passe rien du tout.
Serge Pommier avec Éric Bouvet, France Bleu Armorique pour France Inter. Depuis ce matin, vous le savez, le pass sanitaire est obligatoire aussi dans certains centres commerciaux, les plus grands et dans les départements les plus touchés. 120 centres sont ainsi concernés, principalement en Île-de-France et dans le sud. Dans les Bouches-du-Rhône, au centre commercial Les Terrasses du Port, dans le 2e arrondissement de Marseille, Nina Valette a constaté que ce n'était pas évident.
Devant le bâtiment de 61 000 mètres carrés, les clients doivent tous présenter un pass sanitaire sans exception. Impossible donc de rentrer pour Yannick qui refuse la vaccination.
Si t'as pas ça, tu rentres pas. Si t'as ça, tu rentres. Genre, à croire on est soumis à quelque chose. Je sais pas, on dirait même des robots, genre. Voilà, regarde la queue qu'il y a.
Et dans cette fameuse file d'attente qui avance très vite, il y a Anne, plutôt soulagée d'avoir son fameux QR code.
Les plus embêtés, c'est eux. Ils vont galérer toute la journée, ils vont perdre une heure pour aller faire 3 minutes de shopping. En plus, ils vont rien acheter. Enfin, c'est voilà, ils ont qu'à aller se faire vacciner, ça va plus vite et puis on n'en parle plus.
La cliente montre du doigt celles et ceux qui patientent devant la pharmacie à 50 mètres de là. C'est les yeux rouges que Nasro ressort de son test antigénique.
Franchement, c'est insupportable. J'ai vraiment l'impression de rien pouvoir faire. La prochaine étape, c'est quoi? C'est le pass sanitaire quand on voudra sortir de chez soi aussi.
Pour ne pas pénaliser ses amis, le jeune homme a fait l'effort. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Certains rebroussent chemin et annulent la séance shopping. Mais rien d'alarmant pour Marie Canton, la directrice du centre commercial.
J'ai regardé il y a 5 minutes, on est exactement au même nombre d'entrées que l'année dernière, la même journée. Donc pour l'instant, il n'y a absolument aucun impact négatif.
La directrice qui insiste sur une règle, pas encore totalement acquise, le pass sanitaire n'est pas encore obligatoire pour les mineurs.
Et il le deviendra à partir du 30 septembre. Les hospitalisations en France dues au coronavirus continuent d'augmenter, repassent au-dessus des 10 000 pour la première fois depuis juin. L'établissement français du sang rappelle que le pass n'est pas obligatoire pour donner son sang. Les réserves sont trop basses et l'UFS relance un appel aux dons. Et puis plus de 100 tonnes d'oxygène médical sont en train d'être acheminées vers la Martinique et la Guadeloupe où l'épidémie flambe. Enfin, dans les Vosges, le préfet a signalé à la justice la présence d'une pancarte antisémite et d'une croix gammée brandie samedi lors de la manifestation contre le pass sanitaire à Épinal. C'est ce qu'on appelle une dynastie de boxeurs dans la famille Ali. Voici maintenant le petit-fils, Nico Ali Walsh, petit-fils de la légende Mohamed Ali, décédé en 2016, vient de remporter ce week-end aux États-Unis son premier combat professionnel et c'est la troisième génération à briller sur le ring, Nicolas Perronnet.
Comme on sait le faire dans la famille, un adversaire au sol, un combat express, 1 minute et 49 secondes, arrêté par l'arbitre sur KO technique.
And this fight is over, a TKO. Nico Ali Walsh,
Nico Ali Walsh décroche à 21 ans sa première victoire professionnelle, vêtue d'un short blanc et noir que son grand-père Mohamed Ali avait porté avant de lui offrir.
Honnêtement, ça ressemble à beaucoup de pression, mais pour moi c'est juste mon grand-père. Pour le public, oui, c'est quelqu'un d'autre, c'est le plus grand boxeur du monde, peut-être la meilleure personne au monde, mais pour moi il est juste le meilleur des grands-pères. C'est un rêve qui se réalise.
Après sa victoire, Nico Ali Walsh a rendu hommage également à Bob Arum, qui l'encadre et qui fut aussi le premier promoteur de Mohamed Ali. L'histoire d'une dynastie qui se perpétue sur le ring. Leila, la fille de Mohamed Ali, la tante de Nico Ali Walsh, est elle aussi devenue une star de la boxe jusqu'à sa retraite en 2007.
Et pas plus de spectateurs aux Jeux paralympiques qu'aux JO de Tokyo. Le huis clos quasi total a été décidé aujourd'hui par les organisateurs pour cause Covid. Les Jeux paralympiques débutent mardi prochain. La météo.
La météo avec Hello Business, la nouvelle offre bancaire dédiée aux indépendants par Hello Bank. Plus d'infos sur hellobankpro.fr. Hello Bank est l'offre 100% digitale de BNP Paribas.
Et on retrouve Elodie Calac, encore estivale sur le sud-est. Elodie.
Oui, du Languedoc-Roussillon jusqu'au sud de Rhône-Alpes, à la Côte d'Azur et à la Corse. Ce sera du soleil demain avec du vent jusqu'à 70 km à l'heure pour la Tramontane, pour le Mistral. 70 aussi sur les côtes de la Corse. Alors cette nuit, il va faire encore chaud près de la Méditerranée, 18 à 23 degrés. Demain après-midi, vous aurez sur le quart sud-est 25 degrés à Lyon, mais 30 degrés à Nice, 31 à Marseille, 33 à Montpellier et jusqu'à 35 possible dans l'intérieur varois.
Et plus frais, plus nuageux ailleurs.
Oui, beaucoup de nuages, alors ça n'empêchera pas quelques éclaircies. Plus belle le matin du nord-ouest vers le centre-val de Loire et le Jura. Et puis l'après-midi plutôt vers le sud-ouest, le Berry, la Franche-Comté ou l'Alsace. Près des frontières du nord, en revanche, ça restera vraiment bien nuageux avec quelques averses possibles. Le matin, vous aurez souvent 11 à 16 degrés sur ces régions. Et puis l'après-midi, seulement 19 degrés au Havre, 22 à Paris, à Strasbourg, 23 à Nantes ou à Nevers. Et puis 25 du côté de Bordeaux et de Toulouse.
Une petite laine pour un 17 août. Merci Elodie Calac, Météo France.